Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. L'antenne Aquitaine de l'Institut des sciences de la communication est heureuse de vous accueillir aujourd'hui avec deux parties dans la soirée. Alors nous commençons pile à l'heure parce qu'il y a un groupe qui va prendre un train pour Paris où demain justement il y a une réunion de l'Institut des sciences de la communication avec Dominique Volton. Donc ils sont obligés d'y être demain matin et donc ils s'en vont par le dernier train pour Paris ce soir. Et évidemment ils ne veulent pas rater leur train. Donc nous arrêterons la table ronde à 19h10 et à ce moment-là c'est Jacques Perriot qui est au bout de la table ici qui continuera avec la présentation de son livre que vous avez vu tout à l'heure mais que vous voyez également sur la table. Donc nous allons commencer par la première partie de cette manifestation, c'est-à-dire la table ronde à propos d'un numéro de la revue Hermès. Alexandre Coutan, qui est au centre, qui a coordonné ce numéro avec Thomas Stanger, qui malheureusement s'est cassé le bras et donc ne sera pas là aujourd'hui. Alexandre, donc tout seul, va vous présenter ce numéro après que Anne-Marie Lolland, qui est à sa gauche, vous aura donné un petit peu le paysage dans lequel se situe, du point de vue des sciences de l'information et de la communication, ce numéro sur les réseaux numériques dits sociaux. Participeront ensuite à ce débat Jacques Perriot, toujours lui, professeur émérite de Paris-Ouest, qui est à l'Institut des sciences de la communication. Donc, il a été superviseur de ce numéro. Et donc, il vous dira dans quelles conditions il a supervisé cela. Vous avez entre Alexandre, donc, qui est, lui, enseignant à l'Université de Franche-Comté, à Montbéliard exactement. Et puis, à sa droite, donc, Mokhtar Bananda, qui a travaillé, qui est un spécialiste de la Tunisie et aussi des sciences de l'information et de la communication. Il est enseignant à l'Université de Bordeaux 3, comme Alain Kiyindou, spécialiste d'Afrique et de sciences de l'information et de la communication, qui est à l'autre extrémité et qui pourra répondre aux questions concernant l'Afrique. Donc, dans un premier temps, je crois que j'ai présenté tout le monde, je vais donner la parole à Anne-Marie Lolland, qui elle aussi est de l'Institut des sciences de l'information et de la communication, non, l'Institut des sciences de la communication de Paris. Je me mélange un peu les pédales. Donc Anne-Marie Lolland, qui est conseillère au sein de cet institut, comme Jacques Perriot, va un petit peu situer la problématique générale de ces réseaux dits sociaux. Donc je donne la parole à Anne-Marie pour une dizaine de minutes, sachant que tout le monde sera le plus bref possible pour donner la parole à la salle et répondre aux questions que vous avez toujours voulu poser, que vous n'avez jamais eu l'occasion de poser. Ce sera le moment ou jamais et nous ferons cela au plus tard à 18h40 d'après le timing qu'on a établi ensemble. Donc, je laisse la parole à Anne-Marie pour situer un petit peu cela. Professeure de sociologie initialement, mais qui est devenue spécialiste des sciences de l'information et de la communication. Anne-Marie.
Merci et bravo à tous d'être si nombreux et de plusieurs générations. Ce qui m'introduit tout de suite dans le vif du sujet, la question de ces réseaux numériques dits sociaux, titre ironique évidemment. Eh bien, une question qui n'est pas technique, mais qui est aussi sociétale, communicationnelle et peut-être philosophique. Je vais être très brève, j'ai prévu 4 phrases. Mais la première, c'est le titre. Et je l'intitule « Limite de confiance ». C'est un terme qu'on utilise en statistique pour dire que les chiffres ne veulent rien dire si on ne les rapporte pas à un contexte numérique et chiffré, ce qu'on appelle aussi les fourchettes, dans quelles limites ces résultats, ces pourcentages qu'on nous donne, signifient-ils vraiment quelque chose? Ont-ils un caractère provisoire? Sont-ils reproductibles? Donc, limite de confiance et pour cela, 4 raisons de s'interroger sur les limites de confiance. La première question, c'est quand on est spécialiste de l'histoire des médias, on voit que pour chaque média, on parle de révolution, de nouvelle civilisation, et que cela s'est dit pour la vidéo qui était militante, pour le cinéma qui était révolutionnaire, pour les radios qui pendant un bon moment ont été libres. Et si on remonte plus loin, il y a toujours eu du pouvoir et du contrôle de l'information, déjà au Moyen-Âge, déjà au XVIIe siècle, déjà au XVIIIe, mais qu'en même temps qu'il y avait ce contrôle de l'information, il y avait des tracts, des caricatures du théâtre de dérision, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des mouvements de contre-pouvoir. Alors la question est, ces réseaux sociaux vont-ils être happés par la puissance économique ? Vont-ils conserver leur caractère, comme les radios libres au début, leur caractère militant, pur et désintéressé ? C'est la première question. La seconde, reprenant le titre de Proust, je dirais, nous sommes à la recherche du lien social. Et indiscutablement, le lien social, certains parlent des fractures sociales, ça a beaucoup changé, tout a changé dans les domaines de la famille, du travail, de l'habitat, de la mobilité et de la mondialisation. Cet engouement pour Twitter ou pour Facebook, cette recherche d'une communauté des pairs, d'une communauté choisie, eh bien, le signe que l'on ne veut pas rester dans la hiérarchie imposée. Et je pense qu'Alexandre nous parlera longtemps de ces amis mondiaux qui sont en même temps à la recherche de proximité géographique ou territoriale. La troisième idée, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a deux tendances. Une qui est hédoniste, que j'appellerais futile, légère. Et vous avez tous des adolescents qui passent, sitôt sortis de l'école, 2 heures à tweeter ou à Satché. Donc ça, c'est une activité futile, juvénile. Et à côté de ça, un autre aspect de ces réseaux sociaux, tout à fait loin de la distraction, c'est un côté de solidarité et ou de militantisme et ou de révolution numérique. Dernière idée, c'est que ces réseaux sociaux numériques ne sont pas seulement source de profit, ils sont aussi une dimension éthique, juridique. La CNIL s'en mêle, il est question de normalisation, et c'est là Jacques Perriot qui en parlera. Voilà donc 4 idées, 4 interrogations. Merci madame.
Merci madame le professeur, puisqu'on revient à des titres. Alexandre Coutan, donc je vous passe la parole pour présenter ce numéro spécifique de la revue Hermès.
Oui, bonjour. Donc, merci déjà Anne-Marie d'avoir soulevé plusieurs points, ce qui va me permettre d'être assez bref sur la présentation de pourquoi un numéro consacré aux réseaux sociaux numériques. Donc déjà, cette approche critique des nouvelles technologies est quelque chose qui est assez ancien dans la revue Hermès, hein, puisque ce numéro fait suite à des dossiers spéciaux qui ont consacré la critique de la raison numérique, qui se sont attachés aussi au développement de nos traces identitaires sur Internet et à leur exploitation. Alors pourquoi particulièrement les réseaux sociaux numériques ? Ben déjà, il y avait deux raisons principales, hein, qui étaient de constater cet emploi systématique à peu près dans pour tous les événements du terme de réseau social, c'est-à-dire que ça devenait quelque chose qui participait à tous les événements, qui pourquoi pas même permettait de créer ces événements. Hein, des révolutions, des regroupements, une communication qui aurait été améliorée. Et puis aussi la question du terme amitié, hein, qui nous paraissait assez galvaudé. Donc en fait, le point de départ de ce numéro spécial a été de la volonté de préciser ce qu'on entendait quand on parlait de réseaux sociaux numériques, en se disant qu'après tout, c'était appliqué d'ailleurs souvent en tant que réseaux sociaux. On insiste énormément sur le fait que ce sont des réseaux sociaux numériques. Ça n'a strictement rien à voir avec les réseaux sociaux que vous croisez hors ligne. Il n'y a pas un mappage complet de votre réseau en ligne sur votre réseau hors ligne. L'idée était de préciser donc à l'intérieur de ce thème réseaux sociaux numériques, quelle était la spécificité de ces plateformes. Hein, si vous vous êtes intéressé un petit peu au sujet, vous avez dû voir qu'on vous parle de Twitter, de YouTube, de Dailymotion, de Facebook, qui sont, si on se donne la peine d'aller dessus, des plateformes qui n'ont strictement rien à voir, où des gens parfaitement différents vont, et où on n'a pas du tout les mêmes activités. Donc, en fait, j'ai coutume d'utiliser la métaphore de me dire que les chimistes ont quand même bien fait d'appeler différemment l'aspirine et le curare, étant donné qu'il ne se passait pas du tout la même chose quand on l'ingérait. C'est à peu près la même chose avec ces sites. Étant donné qu'ils sont très différents, pourquoi les appeler de la même manière ? Donc, on a voulu préciser dans le cadre de ce qui avait été partiellement défini comme réseaux sociaux numériques, c'est-à-dire ces espaces où vous avez un profil, où vous avez une liste d'amis, et puis la possibilité de naviguer, non pas par des recherches de mots-clés, mais plutôt par des listes de contacts. Quelle était la spécificité de ces plateformes ? Ce qui nous a permis, bien sûr, conséquemment, de s'interroger sur ce que c'est qu'un ami. Bien sûr, le terme d'amitié est extrêmement promotionnel dans ce cadre. Hein, et a bien rappelé qu'on était à la recherche d'un lien social. Donc, effectivement, il y a de ça. Mais donc, il ne faut pas croire que parce que Facebook nous dit que nous avons des amis, systématiquement, ce sont bien des amis qui sont avec nous sur ces sites. La spécificité des liens qui sont créés nous intéressait, c'était quelque chose vraiment à interroger. Qu'est-ce que c'est exactement le groupe social, le regroupement qu'on va trouver sur un site comme Facebook ? Et puis ensuite, ça nous a permis de voir que ce type de site regroupait des activités très spécifiques. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toutes les activités qu'on peut mener, la plupart sont guidées par un intérêt précis. Et là, c'est quelque chose d'assez inédit, pas dans notre quotidien, parce qu'en général, on passe une bonne partie de notre quotidien à faire des choses plutôt futiles, effectivement, simplement à garder le contact avec des gens, à avoir des activités prétextes, on pourrait dire. Mais la particularité de Facebook était de rendre très visibles ces activités qui, d'habitude, ne sont pas trop étudiées, parce qu'on a coutume de penser qu'on agit dans le cadre d'un intérêt précis. Or, sur Facebook, la plupart des activités sont là essentiellement pour l'occasion de créer du lien social, d'être ensemble, etc. Mais l'activité ne vaut pas vraiment pour elle-même. Donc ça, c'était un élément qui nous paraissait très intéressant à creuser. Et puis enfin, la dernière dimension était ce qu'on peut résumer comme l'idée du coût de la gratuité, étant donné qu'on nous encourage à participer gratuitement, bien sûr, tous ces sites sont gratuits d'accès, c'est tout un tas de services, on nous propose du lien social gratuitement, mais en fait, derrière, il y a quand même tout un modèle d'affaires qui repose sur nos données personnelles et où la matière première de ce marché extrêmement juteux, c'est nous, et où au contraire, là, c'est nous qui donnons gratuitement tout un tas d'informations à des entreprises. Donc essayez de voir cet encouragement à la participation, quel était le revers de la médaille de la participation. Et puis enfin, un dernier élément qui était intéressant, et on est particulièrement chanceux d'avoir ce soir ce panel d'auteurs, c'est que, comme je vous disais, la plupart du temps, les activités sur Facebook sont plutôt des activités badines, légères, frivoles. Et dans la diversité des appropriations de ce type de plateforme, on a malgré tout pu rencontrer de temps en temps des choses un peu différentes, c'est-à-dire un usage non frivole, un usage qui pouvait être solidaire, un peu engagé, voire même politique. Et là, nous avons deux auteurs qui se sont penchés particulièrement sur ce point, où là, c'est un détournement des usages habituels de la plateforme qui est effectué par certaines communautés. Voilà, je vais arrêter là et puis de toute façon, on pourra revenir.
Merci beaucoup. Donc, je passe la parole directement au professeur Jacques Perriot qui a supervisé ce numéro et qui va nous préciser un certain nombre de points.
Geneviève Jacquineau-Delaunay qui est professeur émérite à Paris 8. En fait, à l'Institut des sciences de la communication, on essaie, entre autres choses, de comprendre ce que sont ces réseaux sociaux et de comprendre, sociaux entre guillemets, et de comprendre leur extraordinaire succès. Une position que nous avons, c'est de considérer qu'Internet a deux fonctions. Il a une fonctionnalité d'outil de communication, mais il a aussi une fonction de révélateur de la société, de manque, de choses comme ça. Alexandre faisait allusion tout à l'heure à la notion de lien social. Ben, on peut poser l'hypothèse que dans un certain nombre de cas, la pratique des réseaux sociaux pallie le manque de lien social autrement. C'est donc la démarche qui consiste à regarder Internet comme un révélateur de défaillances, de carences ou d'attentes sociales est une démarche extrêmement intéressante. On a voulu regarder sur ces réseaux numériques un certain nombre de choses. Bon, l'ami, en fait, de fait, c'est un client, puisque, à ma connaissance, Facebook est une entreprise privée comme les autres. Et le client, finalement, donne à ses réseaux sociaux des données numériques personnelles que ces réseaux sociaux revendent dans le marketing. Il y a, comme vous le savez, tout un marché extrêmement important de données numériques personnelles. Bon, est-ce que c'est une ou des communautés ? Une communauté, c'est quelque chose dans laquelle il y a ce qu'on appelle un bien commun. Un bien commun, et tout individu qui participe à cette communauté représente le bien commun dans sa totalité. C'est pas le cas de Facebook. Facebook est donc autre chose. Il faut essayer de savoir quoi. On a constaté, quoi qu'il y ait un reflux maintenant, que beaucoup de gens livrent la totalité de leur intimité, aux radiographies près, mais ça va venir, sur Facebook. C'est un problème, ça, qui est un problème. Mais il y a d'autres gens qui ne voudraient pas qu'on saisisse leur intimité, qui font l'objet de pratiques intrusives, dont les sociétés de marketing, dont un certain nombre de gens se nourrissent pour faire des affaires sans que, véritablement, on le sache. Il y a des pratiques qu'on connaît mal, moi, que j'appelle « fenêtres sur cour ». C'est-à-dire que vous avez des gens qui passent leur journée ou beaucoup de temps à regarder ce qui se passe sur Facebook, mais sans intervenir. Donc c'est une forme de participation à une sorte d'espace qui n'est pas un espace public, qui est quelque chose qu'on connaît mal et qui révèle peut-être ou qui préfigure de nouvelles formes de sociabilité. Donc ça, c'est aussi c'est quelque chose qui est extrêmement important à regarder. Il y a aussi, et ça donne à réfléchir, beaucoup d'enseignants qui initient des pratiques de Twitter et de Facebook dans l'espace scolaire. Mais ça pose quand même un problème, parce qu'à ma connaissance, ces entreprises sont des sociétés privées qui font leurs bénéfices, elles ont raison de le faire, mais est-ce qu'on peut mélanger comme ça l'espace scolaire et les pratiques des sociétés privées ? Donc, vous voyez qu'il y a encore certainement pas mal de questions qu'on pourrait se poser de cette façon-là, mais pour lesquelles, sur ces réseaux sociaux, on n'a pas encore de réponse. Donc c'est la raison pour laquelle on a commencé à faire des séminaires, d'ailleurs un séminaire que dirigent Alexandre Coutant et Thomas Stenger, qu'on a fait ce premier numéro en espérant qu'il va commencer à engendrer des discussions et des débats. Parce que, d'où le terme « dits sociaux », d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un réseau social ? Il y en a eu bien avant Internet. Quelle est la composante véritablement sociale de ces réseaux ? Telles sont les questions auxquelles on essaie de répondre, parce qu'on a tendance aujourd'hui, la presse relayant ça très souvent, à penser noir ou blanc à propos de ces réseaux. Nous, ce qu'on cherche, c'est la nuance et les grisés. Mokhtar Benenda nous parlera tout à l'heure d'Internet dans la révolution tunisienne. On a beaucoup de mal aujourd'hui à apprécier véritablement le rôle, l'efficacité de ces réseaux. Voilà, ce sont les questions qu'on a essayé de poser dans ce numéro, et vous lirez avec intérêt un certain nombre de contributions qui sont tout à fait intéressantes.
Merci beaucoup. Donc maintenant, je passe la parole au professeur Alain Kiyindou, qui va vous parler de sa participation à ce numéro. Merci Alain.
Merci. Ma participation à ce numéro a porté sur les usages des réseaux sociaux dans la diaspora africaine. Je m'intéresse dans mes travaux aux usages des technologies en Afrique. Et il y a une constance, une interrogation principale qui revient souvent, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que telle technologie marche bien, est bien intégrée, est bien appropriée par les populations africaines et pourquoi telle autre technologie ne marche pas. Alors, si on remonte dans l'histoire des technologies, on va se rendre compte que plusieurs technologies ont été proposées aux populations africaines, à la diaspora. Aussi, j'y intègre la diaspora parce que quand on considère la diaspora comme étant la sixième région d'Afrique, hein, je reviens là à une phrase de Jean Ping. Voilà, donc dans ces réflexions, on se pose toujours cette question et on s'aperçoit que les technologies qui ont bien marché en Afrique, c'est la radio par exemple, c'est la vidéo, la vidéo communautaire, c'est aussi la téléphonie mobile qui a bien marché. Alors pourquoi est-ce que la radio a bien marché en Afrique? Tout simplement parce que la radio a bien épousé les valeurs africaines, le système social africain, les valeurs de solidarité, bien entendu, mais aussi le parler africain, qui est un parler avant tout une civilisation de l'oralité, et la radio se prête bien à l'oralité. La téléphonie mobile, pourquoi? Parce que tout simplement, on se débarrasse un petit peu du fil, on a la mobilité et on a aussi cette possibilité de partager le téléphone mobile avec la création d'un certain nombre l'apparition d'un certain nombre d'usages inattendus, comme les cabines téléphoniques auxquelles on s'attendait pas. On a vu également le même phénomène avec la vidéo. On a vu apparaître des usages spécifiques tels que la lettre vidéo qui a été utilisée par les femmes Oudjama et qui a bien permis à ces femmes et à d'autres femmes du continent de communiquer. On se retrouve à peu près dans la même configuration avec les réseaux sociaux. Parce que contrairement à la presse écrite ou à Internet ordinaire classique, là, on est dans une configuration qui est en lien avec les valeurs de solidarité, qui est une des valeurs principales de ce continent. Sur Facebook, sur Twitter ou sur Viadeo, on est en lien avec ses amis et on entretient le lien. Et pour la diaspora, c'est important de rester en lien avec la famille qui est restée loin du pays où l'on vit. Et c'est important de rester en lien avec les personnes avec lesquelles on a grandi, on a vécu, on a partagé un certain nombre de choses, parce qu'on se retrouve dans une configuration, une vie, un contexte que je n'appellerais pas hostile, mais qui est très difficile. On est généralement en situation de précarité, on a du mal à travailler, parce que les conditions ne le permettent pas. On a du mal à poursuivre ses études parce qu'on est déraciné et la scolarité, la forme scolaire qu'on a connue jusque-là est différente de celle dans laquelle on se retrouve en Europe ou en France. Donc on a besoin de liens, on a besoin de soutien, on a besoin de rester en contact avec les autres. Et les réseaux sociaux ont cette particularité, bien entendu, de renforcer ce lien-là. Alors, bien entendu, quand on parle d'amis, ça a été évoqué tout à l'heure, on va se retrouver avec 2500 amis, 3000 amis, mais tous les amis ne sont pas au même niveau, ne sont pas au même degré. Il y a des interdépendances, il y a des chaînes qui existent, il y a des maillons qui existent, et ces maillons sont à une certaine distance, hein, plus proches les uns que les autres. Donc, il y a une différenciation déjà qui se fait au niveau de ces amitiés-là. Alors, quand on va scruter les réseaux sociaux qui concernent notamment la diaspora ou les réseaux de solidarité bien connus, on va être surpris par le fait que dans ces réseaux, les utilisateurs ne vont pas hésiter à se dévoiler, à passer d'un sujet ordinaire, classique, public, à un sujet personnel. Je prends l'exemple d'un réseau social qui est tourné autour de la vie dans le pays d'origine, au Congo, et on va parler des difficultés de vie dans ce pays, Brazzaville, les routes ne sont pas en bon état, et un internaute qui se trouvait à Brazzaville en ce moment-là, en vacances, On profite pour attester, pour affirmer que ce qui vient d'être dit est bien réel, est bien vrai, que l'état des routes est vraiment catastrophique. Et cet internaute va ajouter qu'il se retrouve à Brazzaville parce qu'il a perdu un parent et c'est la raison de son déplacement. Et du coup, à partir de cette information, on va voir le sujet, la thématique principale, dévier vers un autre sujet hein, qui est d'ordre de, qui relève de la vie privée. Là, tous les messages vont s'orienter vers la situation de la personne en question. Donc, on va voir une succession de messages de condoléances qui vont suivre. Et il va y avoir naissance également d'une initiative d'organiser, par exemple, une veillée au retour de la personne qui est partie à Brazzaville. Donc, tout cela se fait sur Internet. Alors, contrairement au système d'organisation ordinaire, on va se rendre compte que là, les personnes qui sont chargées de l'organisation ne sont plus les aînés comme dans le système traditionnel, mais ça va être des personnes des animateurs qui sont bien présents sur le net, qui vont prendre les choses en main et qui vont déclasser un petit peu les aînés de façon à prendre effectivement les choses en main. Donc, on se rend compte que, bien entendu, il y a une nouvelle vie de la communauté qui se fait sur Internet, mais cette vie a une forme différente, c'est-à-dire que certaines valeurs sont inversées, c'est-à-dire que les aînés n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient avant. L'organisation se fait différemment. Et au-delà de cet exemple qui pourrait apparaître comme positif, on va se rendre compte également qu'il y a des systèmes de contrôle qui vont se mettre en place. C'est-à-dire que le Facebook, par exemple, va permettre de contraindre des personnes qui ne comptaient pas aller à cette veillée d'y aller dans la mesure où on va utiliser la rubrique événement et on va demander à ceux qui vont participer à la veillée de le dire ouvertement. Donc sur la liste, on peut voir qui va y aller et qui ne va pas y aller. Et dans la mesure où on est dans une communauté assez restreinte et qu'on a toujours peur de ce que les autres vont penser de nous, on va être obligé de cocher « j'y vais » et participer donc à cette manifestation-là. Je pense que j'ai trop parlé.
Non. Voilà. Donc, on sait bien que l'Afrique est le continent de l'oralité.
Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais ce que je tenais à dire simplement, c'est qu'on va retrouver là sur Facebook la société africaine qui va renaître avec, bien entendu, des différences, mais qui a su s'approprier ce nouveau dispositif qui a été mis en place en dehors de la pression économique qui a été évoquée tout à l'heure. Merci.
Merci Alain. Alors je passe maintenant la parole à Mortar Benenda qui va nous parler de ce qu'il a écrit à propos de la révolution tunisienne.
Merci Alain.
Merci Mortar.
Okay. En fait, ce n'est pas ce que j'ai écrit uniquement parce que c'était une petite contribution dans le numéro, mais c'est essentiellement ce que j'ai vécu parce que j'ai accompagné la révolution tunisienne depuis ses débuts à travers Facebook. J'étais là, donc sur mon divan, mais à vrai dire, à certains moments, je suis allé sur le terrain pour voir, pour accompagner les marches, les révolutions. Donc, ça m'a permis effectivement de voir réellement sur le terrain comment les gens réagissent avec la révolution en termes de médiation de ce qui se passe.
Je précise donc que tu es à la fois à l'Université de Bordeaux 3 comme enseignant, mais aussi enseignant à l'Université de la Manouba à Tunis.
Oui, ça me permet d'être entre les deux environnements. Et l'essentiel dans tout cela, ça veut dire qu'au fur et à mesure de m'associer à cette dynamique de communication, d'échange à travers les réseaux sociaux, actuellement je coordonne des groupes donc sur Facebook pour la reconstruction de la société civile, etc. Et en même temps, ça me donne de la matière d'observer les comportements et les attitudes des gens qui s'inscrivent dans ces groupes-là. Et à travers cette observation, il y a des éléments qui m'ont interpellé et sur lesquels j'essaie de conduire quelques réflexions, de faire de l'analyse de comportementale des gens qui sont dans ces réseaux-là. Et sur lesquels, effectivement, donc, je vais essayer de faire rapidement une synthèse ou bien les questionnements que je me pose et autour desquels, effectivement, je continue un peu mes réflexions et mes analyses. Il y a trois éléments essentiels qui ont attiré mon attention dans le comportement des gens dans ces réseaux-là. La première, c'est la rapidité avec laquelle les gens se sont appropriés des réseaux sociaux numériques, essentiellement Facebook, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, pour construire une conscience collective qui répond plus ou moins, qui reprend un peu la théorie de Gustave Le Bon qu'il a affichée il y a un siècle avant Internet, lorsqu'il parlait de la psychologie des foules. Donc, c'est que rapidement, il y a une appropriation et la mise en place surtout de la notion de système. Dans le temps, bon, chacun il est sur Facebook, il communique individuellement pour partager avec un ami, etc. Mais là, concrètement, on voit le détournement des réseaux pour que ça devienne un environnement vraiment c'est de l'action, c'est de l'engagement collectif et c'est vraiment de la mobilisation massive. Et ce n'est pas uniquement ça, cela veut dire ce qui est étonnant, c'est de voir qu'autour de ça, il y a la notion du système qui s'est mise en place. Cela veut dire qu'il y a une distribution de rôles et on voit même dans la rue, c'est-à-dire, j'ai pu l'observer, de voir des gens qui font la prise de photos, qui envoient, d'autres qui envoient sur Internet, et d'autres qui réceptionnent, qui valident et qui diffusent. Donc, quelque part, on retrouve un peu un schéma de communication particulier dans lequel il y a la source, le média et le public. Donc, tout ceci s'est construit de façon magique, entre guillemets. Donc, c'est un questionnement que je me pose pour voir, effectivement, comment est-ce que la masse s'est pu approprier de quels sont les éléments qui entrent en compte pour construire ce modèle plus ou moins complémentaire, et mettre en place un système plus ou moins complémentaire dans lequel il y a ces éléments-là du système. Ce qui me conduit au deuxième point sur lequel, effectivement, je me pose des questions. Est-ce qu'on peut parler, d'ailleurs ça a été discuté énormément, sur le fait que ces réseaux sociaux, on parle du cyberjournalisme, des gens qui se sont autoproclamés comme étant journalistes et qui font le travail des journalistes conventionnels. Est-ce que, à quel degré est-ce qu'on peut parler d'engagement des acteurs dans ce système-là? Est-ce que c'est vrai ou non? La qualité du contenu, est-ce que c'est vraiment du rapport journalistique ou non? Cela veut dire que ça pose la question de la désinformation, de la validation des rumeurs. Et également, est-ce que le process lui-même, est-ce qu'il répond à des critères journalistiques professionnels ou non? Est-ce que vraiment ça constitue l'alternative? Surtout que, quelque part, lorsqu'on observe des circuits médiatiques conventionnels qu'on connaît, comme Al Jazeera par exemple, qui puisent ces informations dans les réseaux sociaux. Est-ce un indicateur qui valorise ce qu'il y a sur les réseaux sociaux ou non? Ou c'est juste parce qu'il y a un manque d'informations, sachant pertinemment qu'Al Jazeera, dans certains contextes, elle est interdite d'accès, comme ça se passe aujourd'hui en Syrie ou ailleurs, donc elle est obligée d'aller puiser ces informations là-bas. Est-ce un indicateur valable ou non? Donc c'est quelque chose qu'il faut creuser et sur lequel, effectivement, je pense aller un peu plus pour déterminer un système ou non, le rapport entre les deux. Est-ce que ça se complète? Ça se contredit? Est-ce que ça se croise ou non? Donc là, c'est un questionnement sur le système qui s'est mis en place, sur la rapidité et surtout cette notion d'appropriation rapide, instinctive, par des gens qui n'ont aucune formation dans le domaine, mais qui se sont immédiatement organisés pour construire cette chaîne-là. Donc, c'est des questionnements qu'on se pose là-dessus. Le deuxième point qui m'a interpellé, et quelque chose d'assez original quand même, c'est la symbolique de l'image. La symbolique de l'image dans le sens où l'image sur ces réseaux sociaux, quand même, on est dans un réseau, on a un identifiant. Et on a un profil, et également on a ce qu'on appelle les avatars, ça veut dire une photo, etc. C'était impressionnant de voir, à partir de la Révolution, un changement rapide et massif. Tout le monde a changé son avatar. Et du coup, chacun, on voit des effigies qui apparaissent, le Che, Mandela, des drapeaux modifiés avec je sais pas quoi, avec le V de la victoire, etc. Et ce n'est pas anodin. Cela veut dire que même il y a un débat autour de ça, des gens se questionnent eux-mêmes pourquoi tu as choisi cet avatar-là, etc. Donc c'est devenu un indicateur du niveau d'engagement dans la Révolution. Celui qui utilise un Che, c'est le vrai révolutionnaire. Celui qui utilise un autre... Donc, et il y a du commentaire, du débat là. Donc ça veut dire que l'avatar entre dans l'identifiant de la personne, dans son engagement, dans son appropriation un peu de cela. La force de l'image aussi, elle est apparue sur un autre point. J'en ai discuté avec Mugula tout à l'heure. C'était impressionnant, ça m'a interpellé, que dans les manifestations, les vidéos sur le réseau, une première, c'est-à-dire quelque chose qui m'a interpellé, de voir dans la foule des gens qui défilaient. On avait l'habitude d'avoir des banderoles dans lesquelles on est contre le pouvoir, etc. Mais il y a des banderoles avec Facebook, tout court, ou bien avec Al Jazeera. Donc ces médias changent de statut. Au lieu d'être uniquement un canal qui permet de communiquer, c'est devenu un acteur dans la révolution elle-même. Ça veut dire, est-ce que là, vraiment, il y a un changement de rôle? Est-ce qu'une déviation ou bien un détournement à ce moment-là, à fond, la caisse par rapport à la mission essentielle de Facebook? Ça veut dire que c'est des choses qu'il faut voir, qu'il faut interpréter par rapport peut-être qu'il y a un peu du cognitif au niveau de la personne engagée. Cela veut dire comment, quelle est cette dimension cognitive qui permet à la personne de s'identifier ou bien d'utiliser Facebook comme étant un argument de guerre, de conflit. Oui. Donc c'est un peu ces éléments-là qui m'ont interpellé, sur lesquels je suis en train de travailler pour répondre à une autre question. Enfin, je conclue avec ça. La question qu'on se pose et qu'on lit un peu partout, que ces révolutions-là, ils les appellent aujourd'hui les révolutions Facebook, révolution Web 2, révolution etc., comme si ces révolutions n'ont eu lieu que grâce à Facebook, etc. Une question très, très répandue. Au début, effectivement, fasciné par l'outil qui est innovateur, donc tout le monde est allé dans cette direction-là. Mais actuellement, quand même, bien réfléchi, on sait bien que ce n'est pas le cas, parce que quand même, il suffit juste de voir l'histoire, qu'il y a des contre-exemples. Effectivement, je prends le plus ancien. Cela veut dire que le mur de Berlin, il a chuté sans technologie. Donc quand les pays de l'Est se sont mobilisés, il n'y avait pas de ça. Il y avait aussi l'exemple iranien, il y a l'exemple birman, il y a également en Chine. Cela veut dire que ces outils ont été utilisés, mais ils n'ont pas donné un résultat. Tout ceci pour dire, finalement, je conclue avec une petite constante, que finalement, les révolutions qui se passent, c'est pas l'outil. Ça veut dire l'outil, il vient aider pour accélérer un processus, mais ce n'est pas lui qui est à l'origine de ce genre de révolution. Mais ça reste quand même la grande interrogation sur les modèles d'appropriation que je dis. Je suis en train de finir un petit article sur une analogie entre les réseaux sociaux et Al Jazeera. Je suis en train d'écrire un article que j'ai intitulé d'ailleurs la face cassée d'Al Jazeera, le média rebelle. Ça veut dire qu'il avait la notoriété d'être un instrument innovateur, mais on voit bien qu'actuellement, il y a beaucoup d'éléments de critique sur ce média-là, et que je suis en train de creuser pour arriver effectivement à voir ces éléments un peu cachés sur lesquels on n'a pas beaucoup discuté et sur lesquels effectivement j'aimerais bien arriver à des constats et à des conclusions.
Merci beaucoup. Donc, on va terminer cette première partie. Ne partez pas. Il y a 20 minutes qui restent, qui vont être consacrées donc au livre qu'a dirigé, entre autres, Jacques Perriot. Et on laisse partir donc ceux qui ont leur dernier train pour Paris. Sinon, ils sont obligés de dormir dans la gare. Donc, Jacques, vous mettez peut-être au centre. Jacques, tu te mets au centre, là.
Merci beaucoup.
Voilà.
Pour être
merci à tout le monde. Je vous redonne le titre, La norme numérique, savoir en ligne et Internet. Donc là aussi, si vous pouvez parler une dizaine de minutes après, avoir un court échange avec la salle pour qu'ils puissent étancher leur curiosité. Merci en
curieuse,
tout cas.
Ce sujet qui passionne le public anglo-saxon n'intéresse pas les Français. Donc ce n'est pas facile d'aborder ce sujet. Qu'est-ce que c'est que la norme numérique? La norme numérique, c'est un système de convention qui est discuté, négocié par un groupe d'experts en tenant compte d'avis multiples pour permettre les échanges d'objets représentés numériquement sur Internet. Ou sur d'autres choses aussi, mais principalement sur Internet. Alors, je vais prendre un exemple sur lequel nous avons beaucoup travaillé, parce que c'est un ouvrage collectif. Il y a une dizaine de collègues, nous travaillons depuis 10 ans sur ce genre de choses. On parle beaucoup, à l'heure actuelle, par exemple, d'enseignement en ligne, de e-learning. Le e-learning va avoir un contenu, ça va être, par exemple, une leçon, et on va la mettre sur ordinateur. On va la mettre sur ordinateur. Alors, toute la question, c'est de savoir si on veut s'en servir que sur son ordinateur à soi ou si on veut pouvoir l'échanger. Si on veut pouvoir l'échanger, il faut qu'on se mette d'accord sur des formats, sur des standards de présentation, je ne dis pas sur des contenus, mais sur des standards qui permettent ce qu'on appelle en termes techniques l'interopérabilité de fonctionner. Or, ça, c'est quelque chose qui est important dans la perspective paraît très probable, c'est qu'on va aller de plus en plus vers l'échange de savoir dans le monde, et pas seulement en France, de façon internationale, etc. Alors, ce qu'on avait bien constaté, c'est que les Anglo-Saxons avaient compris ça bien avant nous, Et à partir de 2000, on a remonté le courant de façon à ce que nous nous mettions d'accord avec beaucoup d'autres pays étrangers pour que nous adoptions des formats tels que les enseignements en ligne puissent s'échanger. Alors, ce travail se fait dans le cadre de l'AFNOR pour la France, l'Association française de normalisation, et plus généralement dans le cadre de ISO, l'Organisation internationale des standards, qui regroupe, à part seule l'Amérique du Sud en est absente, l'Afrique commence à y intervenir. On a ici, à côté de moi, le coordinateur international de la terminologie pour ce genre de questions. Et puis, alors, ils sont présents, bien sûr, l'Union européenne, l'Amérique du Nord, la Chine, la Russie, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, le Canada, etc. Alors, cette question est une question qui est difficile. C'est une question qui, en termes de profil, a intéressé initialement les documentalistes qui se préoccupaient de numérisation. Pourquoi ? Parce que les documentalistes ont l'habitude de faire des fiches renseignant des documents avec des rubriques. Les rubriques ne sont pas au hasard, elles sont normalisées depuis un certain temps. Une norme internationale qui s'appelle le Dublin Core, qui indique les l'auteur, le titre, le contenu, le prix, les droits d'auteur, etc. Bref, tout ce qu'il est convenu d'appeler la signalétique. Alors, cette activité de création de la norme numérique ne se limite pas, bien sûr, à l'enseignement. Dans la commission que j'ai présidée jusqu'à l'année dernière, nous avions trois thèmes de travail qui ont des relations étroites. Il y avait bien sûr l'enseignement en ligne. Il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, la validation en ligne des compétences, qui est quelque chose que font de plus en plus les entreprises, et la protection des identités numériques personnelles. Parce que vous voyez bien que ces choses-là se tiennent. Si je suis un enseignement en ligne, je vais alimenter les bases de données de résultats qui vont informer sur ma compétence et sur l'évolution de la compétence. Ceci peut nourrir le spectre de mon identité numérique personnelle. Alors, tout ça, c'est un travail extrêmement laborieux, difficile, qui suppose qu'on confronte les conceptions de tous les pays de l'enseignement, les conceptions de tous les pays de l'identité numérique personnelle. Et je peux vous dire qu'entre les Américains et les Européens, c'est pas le consensus immédiat, suppose un accord sur les modèles de validation des compétences. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, il y a quand même de bonnes nouvelles dans un monde qui n'en a guère en ce moment, c'est qu'il y a des choses qui ont bien avancé. Il va y avoir à Shanghai en septembre, nous allons signer la norme concernant l'enseignement en ligne, le e-learning, qui va quand même être signée par tous les pays que j'ai cités, du Canada à la Corée du Sud, en passant par la Chine, le Japon, etc. C'est un scoop. Le modèle de validation des compétences va être signé l'année prochaine. Et là aussi, il y a eu un travail qui a duré 7 ans pour que les gens s'accordent sur les rubriques, les catégories à renseigner pour que les profils puissent s'échanger. Et il y a un très gros travail qui est en train de se faire, qui va se terminer en 2012, mais pas seulement avec ISO, avec l'ensemble des CNIL, c'est-à-dire des institutions chargées de ça dans les États, sur des mesures et des standards pour la protection des identités numériques de chacun d'entre nous. Alors, le livre, là, c'est un ouvrage collectif. Moi, Céline Wagger, qui a travaillé au départ avec moi, c'est pour ça qu'elle a co-signé la direction de cet ouvrage. Et dedans, vous avez trois parties de cet ouvrage. Vous avez une première partie qui est un peu pédagogique, qui raconte ce que c'est que de faire des normes. On rappelle au passage quand même que c'est la France qui a fait les premières normes numériques. Je parie que vous le savez. Le système métrique, 1792, c'est la première norme numérique. Et curieusement, on l'a oublié. Donc cette première partie est importante avec aussi quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, c'est la dimension multiculturelle. Parce que les négociations, les délibérations que nous avons se passent entre des cultures différentes. Et à l'heure actuelle, Mokhtar pourrait en parler, puisque mieux que moi, il y a par exemple des systèmes de description des données, j'ose pas dire le mot horrible de métadonnées, qui sont faits en Wolof, qui sont faits en berbère, c'est-à-dire que les pays du Sud commencent à se mettre dans ce concert qui permettra cette interopérabilité des contenus. Donc ça, c'est la première partie, partie pédagogique de présentation du problème. La deuxième partie montre que différentes sciences en dehors de l'informatique et des télécommunications, bien sûr, peuvent contribuer et doivent contribuer à ce travail. Il y a une dimension psychologique, par exemple les modèles d'apprentissage. Il y a une dimension sociologique, par exemple comment caler, obtenir un consensus dans des commissions qui représentent des cultures extrêmement différentes, avec des modèles extrêmement différents. Il y a aussi et surtout l'économie, mais pas n'importe quelle économie, l'économie qu'on appelle l'économie des conventions. Parce que ça, je rappelle les travaux d'Éric Brousseau et de Laurent Thévenot, l'économie des conventions se fonde sur une notion très importante qui est celle d'investissement de forme. L'investissement de forme, c'est par exemple construire la grue qui va permettre de produire un bâtiment. Eh bien, la norme est un investissement de forme. Et là, on a une articulation que l'on explore beaucoup en ce moment entre le champ économique et le champ de la normalisation. Et également, dans cette seconde partie, les sciences de l'information et de la communication sont présentes à propos précisément des identités numériques personnelles. Et la troisième partie est une partie politique et éthique. Et ça, c'est très important, parce qu'on sait très bien, nous savons tous qu'il n'y a pas de travail technique, que ce soit sur les réseaux numériques dont nous parlions tout à l'heure, ou sur les normes, ou sur autre chose, sans réflexion éthique, c'est-à-dire le sentiment de faire quelque chose de bien, ne serait-ce que par rapport à son appréciation personnelle. Et il y a une dimension politique. La dimension politique, c'est extrêmement intéressant de voir qu'en 10 ans, de 2000 à 2010, le climat des comités de normalisation a beaucoup évolué. Au départ, c'était des industriels entre eux. Mais les usagers sont entrés dans la négociation. Il y a eu un certain nombre de marques, de signes nets qui ont montré qu'on tenait compte des usages, que l'on tenait compte des diversités et que l'on arrive finalement à des sortes de normes souples, pour la glissante en quelque sorte maintenant, et qui sont véritablement une rénovation du concept de normes ou de standards. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un ouvrage donc qui n'a d'autre prétention que d'essayer, je crois que c'est le premier du genre en France, qui n'a d'autre que de commencer à sensibiliser un certain nombre de gens à cette question de la normalisation. Je termine en disant que une des seules façons que nous avons de réguler aujourd'hui la mondialisation, c'est par la normalisation. On a vu le succès de la régulation financière, on a vu le succès de tas de types de régulations. Des régulations qui fonctionnent, ce sont les normalisations. Il y a à l'heure actuelle 70 organisations dans le monde qui s'occupent de normalisation. Alors il y a encore des normes qui sont branlantes, je citerai à tout hasard la norme nucléaire. Mais il y a des normes dans tous les sens, il y a des normes dans le monde de l'environnement, de la pollution, etc. Et ce qui est important, par exemple, quand on a des pays avec lesquels on a des difficultés sur certains types de normes, le fait de se rencontrer et d'élaborer des normes en commun, ça peut-être empêcher un certain nombre de conflits futurs. Voilà.